American Desert, donc qui a été écrit en 2004, met en scène Theodore Street, universitaire en panne d'inspiration, rongé par l'ennui, dont la carrière est au point mort et la vie personnelle un naufrage. Dès la première page du roman, il meurt dans un accident de voiture. Sa Lancia est heurtée de front par un camion. Elle s'arrête net, mais pas Ted, qui traverse le pare-brise et s'en sort sans une égratignure, sauf qu'il meurt et que sa tête se détache de son corps et s'en va rouler un peu plus loin sur l'asphalte. Le personnage était en route pour se suicider et rate ainsi jusqu'à son suicide. Lors de ses funérailles, il se redresse dans son cercueil, devenant un avatar tragi-comique des morts vivants de la littérature victorienne, mais aussi et surtout un monstre, messie ou antéchrist, objet d'effroi et de convoitise pour l'armée et les savants fous, désireux de comprendre les mécanismes du vivant et de réaliser le fantasme d'immortalité, fût-ce en le dépouillant de ses organes avant de les remettre pêle-mêle dans son corps, je cite, l'estomac plus ou moins à la place de l'estomac, les deux reins du même côté et le pancréas par terre écarté d'un coup de pied. Même si l'ouvrage n'est pas à proprement parler une réécriture de l'œuvre de Mary Shelley, l'ombre de Frankenstein l'accompagne néanmoins, non tant dans la transformation d'un corps mort en puissance de vie, que dans l'incapacité de rendre compte de cette transformation et de la maîtriser. Plus encore, cette ombre, qui plane sur le texte, est fondée sur le malentendu qui entoure le nom Frankenstein. Les trois références à ce nom dans le roman épousent la confusion entretenue dans l'imaginaire collectif entre créature et créateur, renforcé ici par le fait qu'il n'y a aucun créateur. C'est alors sur le cliché Frankenstein que se noue le rapprochement, sur un cliché qui entre en collision avec des expériences scientifiques visant à fabriquer une armée de Jésus, aussi invincible que serait le Fils de Dieu. L'indifférenciation créateur-création entraîne une série de confusions et d'inversions génériques qui relèvent tout autant de la parodie que d'un vaste assemblage collectif d'énonciations. Il s'agira d'examiner comment le mythe Frankenstein informe le roman à travers l'analyse des clichés dont le texte se nourrit et qui le sature et le suture à l'image de la tête de Théodore grossièrement recousue sur son torse avec du fil de pêche. Comment le signifiant Frankenstein est-il tout à la fois saturé et évidé dans un monde lui-même, figure évidemment du désert américain. Alors, le suicide de Ted Street, loin d'accomplir la fin normalement inhérente à tout suicide, marque un début. Une rupture tout aussi radicale que l'aurait été sa mort volontaire, mais défaite de toute visée programmatique puisque le personnage n'atteindra jamais le lieu où il prévoyait de se tuer, fauché dans son élan par l'irruption intempestive d'un caniche aux ongles peints devant un camion. Pourtant, le programme était clair, nimbé d'une aura romantique et quelque peu glorieuse, réminiscente de la mort du monstre créé par Mary Shelley, le sublime en moins. Je cite American Desert. But regardless of where Ted stood or stands, he was on his way to the beach where he had every intention of marching into the ocean until it was over his head and taking a deep, lung-filling breath of water, which, according to his limited knowledge of human physiology, would result in the termination of his life, barring the interference of some lifeguard or Boy Scout or Girl Scout, though he had never found Girl Scouts to be terribly overzealous or meddlesome. L'effet d'étirement de la phrase sur la page n'a pas pour seule conséquence de retarder le moment qui n'a pas eu lieu. Sa mort accidentelle a déjà été annoncée dans le texte, annihilant ses velléités suicidaires, mais aussi de concentrer un nœud de contradictions qui fournissent au roman sa matrice. Les oscillations qui tissent le texte, ni vivant, ni mort, vivant et mort, humain, inhumain, vous pouvez en ajouter d'autres si vous voulez, s'incarnent dans l'équipossibilité verbale et factuelle, stood or stands, lifeguard or boy scout or girl scout, et dans une narration à la troisième personne alors même qu'elle est proférée par Ted. Bien plus, alors que le suicide prévu par Ted devait aboutir au bien improbable engloutissement de son corps par les flots, c'est-à-dire à sa disparition littérale de la surface de la Terre, sa mort accidentelle aboutit à sa surexposition, de même que la phrase s'étale, visible sur le papier, insistante, à coups de propositions et de retournements, dans un différement de sa fin, alors que les propositions successives n'en finissent pas de s'annuler, ou tout au moins de s'évider. Chaque hypothèse est en effet systématiquement déséquilibrée par la possibilité de son annihilation, jusqu'à créer une sorte de monstre linguistique, lorsque Ted hybride le souffle et l'eau, a deep, long-filling breath of water, en substituant l'eau à l'air, la fonction respiratoire se trouve inversée et le souffle de vie se transforme en souffle de mort. En d'autres termes, c'est du principe vital de respiration qu'est ici censé surgir la mort, à l'inverse de la créature de Frankenstein, fabriquée à partir de corps morts et qui, elle, contrairement à Ted, disparaît bel et bien dans l'océan à la fin du roman de Mary Shelley. Ce qui se dégage de cette longue phrase est un processus d'anéantissement que va démentir l'ensemble du roman. À la disparition programmée s'oppose une hypervisibilité qui n'est pas sans lien avec la survivance du mythe de Frankenstein et son imprégnation dans la mémoire collective. Avant même sa résurrection et la fureur médiatique qui s'ensuit, Ted est exhibé dans ce qui amorce le freak show du roman, lorsque l'assistant du médecin légiste part littéralement en tournée, s'arrêtant successivement dans un fast-food, au domicile de sa mère, dans une librairie de BD, sur un parking interlope où il propose, contre une poignée de dollars, de, je cite, voir le Maccabée, dont la tête a été placée sous le bras gauche du cadavre dans le sac qui le transporte à la morgue. Cette surexposition ne se démentira jamais dans le roman, faisant du personnage une représentation figée, que s'approprie le monde entier, tant en dépit du chaos créé par sa résurrection, il devient un cliché, au sens le plus littéral du terme. Je cite, « Now Ted thought, even if the media would leave him alone, his face was permanently etched in the minds of the entire world, a ceaseless, monotonous, insipid lodging in the public mind that appeared to have nothing but compartment after compartment for the storing of useless images and pointless, meaningless synaptic events. » Vision peu flatteuse de l'intelligence commune, cette réflexion de Ted est plus intéressante parce qu'elle suggère de la construction d'une image fixe et continue qui viendrait hanter la mémoire collective, sorte de coquille vide qui n'éveillerait rien d'autre que des réflexes synaptiques. C'est sur son visage que se cristallise cette mémoire, détournement d'un regard indifférencié qui se pose, en fait, sur les sutures qui rattachent sa tête à son tronc, visage qui agit comme un spectre, gravé en arrière-fond, etched, formant un tissu continu, ceaseless, monotonous, sur lequel ne s'inscrit rien d'autre qu'une forme d'aporie ou d'évidement. L'événement est ainsi paradoxalement neutralisé en dépit de sa surexposition, car ce n'est pas tant l'événement de la résurrection de Ted qui occupe le monde entier, qu'un archivage stérile, la compilation d'images qui échouent à faire sens et sont réduites à n'être que des signifiants sans référent. Ou plutôt, les référents qui saturent le texte, produisant des effets de familiarité et de déjà-vu, relèvent du simulacre et, paradoxalement, nient tout ancrage dans une réalité tangible. Ainsi, comme le suggère le corps sans tête dont Ted rêve après son retour chez lui, le personnage est un simulacre. Alors que dialogue le corps à deux têtes de Paul House et Karlheim, la tête à deux corps de Hegel et Heidegger et un tronc sans tête anonyme, ce dernier conclut « The new person is an imitation. The original person is gone. There is no more Ted. There is only Ted Prime. » Un peu comme une fonction dérivée, signe d'écart et de variation. Ou un peu comme un produit dérivé, dirait-on en français, voué à n'être qu'une pâle copie, voire une simple évocation d'un objet ou d'un phénomène dont on aurait épuisé les bénéfices culturels et commerciaux. Quant à savoir qui est ou ce qu'est l'original, c'est une question à laquelle le texte refuse une réponse précise, comme en témoigne la scène du miroir qui suit directement le rêve de Ted, et lors de laquelle le personnage, je cite, « regarde dans le miroir et scrute le visage qui le regarde et se demande s'il est, je cite, effectivement lui-même. He looked at the mirror and studied the face that looked back. Was he indeed himself ?» Mise en abîme, dans laquelle évidemment tout n'est que reflet. La distance est au moins triple ici. Ce n'est pas son reflet que Ted contemple d'abord, mais le miroir. Surface plane qui n'est pas sans rappeler les écrans de télévision qui diffusent son image en boucle. Ensuite, dans la tradition des histoires extraordinaires à la Poe, le reflet dans le miroir désigne le double davantage que l'identique. Le visage dans le miroir, le dévisage, réduplication d'une réduplication, si Ted est désormais Ted Prime. Enfin, l'apparente redondance, he himself, dans la phrase finale de ce passage, agit en fait comme une séparation, marquée physiquement par l'adverbe et redoublée par le fait que la voix narrative est celle de Ted, dont le récit fait porter un troisième regard sur les deux qui s'échangent ici. La réduplication de Ted dans le miroir et l'effet d'inquiétante familiarité qui en résulte reflètent les effets de diffraction, de saturation qui parcourent le texte. La différence, A-N, entre Ted et Ted, ou Ted Prime, figurée par le miroir, qui ne permet plus de savoir quel est l'original et quelle est la copie, renvoie à une origine incertaine, même si les analepses qui parsèment le roman semblent vouloir camper un Ted originel. Les choses se compliquent encore lorsque l'imaginaire collectif ramène Ted à une autre origine en la dévoyant. Par deux fois, le personnage principal est nommé Frankenstein. Nom bien commode pour désigner l'impensable, à savoir un être dont le statut d'humain reconnu comme tel par ses semblables, ses frères, est sérieusement ébranlé par la solution de continuité que figurent les points de suture sur son cou. Marque que, littéralement, sa vie, tout comme son intégrité corporelle, ne tiennent plus que par un fil. Mais à chaque fois, le nom désigne, comme bien souvent dans la mémoire collective la plus imprécise, le monstre, Ted, et non un bien improbable créateur, de la même façon que le nom Frankenstein efface le savant et fait saillir l'image de sa créature. C'est bien l'original qui a disparu ici aussi, et le signifiant Frankenstein s'est déplacé, effaçant le savant au profit du monstre. Ce qui se noue ici est un brouillage de l'origine du mythe, brouillage fondé sur une mélecture ordinaire. Le nom Frankenstein a échappé à sa créatrice, Mary Shelley, pour acquérir le statut sinon d'un nom commun, du moins d'un cliché subsumant le concept de monstruosité, et partant sur une appropriation du nom par une mémoire collective aussi défaillante que désireuse de figer le nom et d'arrimer le corps de Ted à une référence somme toute rassurante, parce qu'elle permet de comprendre et de comprendre, prendre ensemble, de faire entrer dans un cadre familier. En ce sens, le personnage central de American Desert semble paradoxalement incarner cet archi-phénomène de la mémoire, comme le dirait Derrida, que Derrida nomme la trace. La trace du récit original, dont Jean-Jacques Le Cercle montre à quel point il est lui-même davantage une ligne de fuite qu'un point d'origine, une tension, je cite Jean-Jacques Le Cercle, indice d'hésitation, d'ambiguïté, voire déni, est certes récupérée comme matrice, mais seulement dans ses effets. Que pour les autres personnages, Ted incarne le monstre, l'inscrit dans une filiation, une forme de généalogie apte à réconcilier les contraires et à rendre compte de l'impensable. Tout cela permet, quelle que soit la peur et l'incompréhension qu'il suscite, de le rendre tangible et de lui accorder une place et une présence dans le monde du roman en l'inscrivant dans une descendance linéaire qui propose un récit aussi faux soit-il. En d'autres termes, la prolifération du nom Frankenstein rétablit l'illusion d'une présence pleine et à défaut de lire l'origine permet de lier, comme le fait maladroitement le fil de pêche, qui maintient la tête à sa place. Elle permet de dire l'altérité radicale que représente Ted, ni vivant ni mort, vivant et mort, et surtout de lui donner forme en rattachant la trace visible de son altérité au fantasme d'une visibilité déjà connue. En faisant appel au nom Frankenstein, Anna, la belle-sœur de Ted, et Avery, l'avatar de Virgile qui guide Ted dans les sous-sols infernaux de la zone 51, délimitent un cadre à même de contenir le chaos et de donner sens en subordonnant le nouveau Ted à une origine. C'est la parole proférée, interpellative dans les deux cas, qui donne corps à ce corps qui défie la raison et les lois de la nature et le reconstitue comme une entité certes monstrueuse, mais reconnaissable et donc malgré tout acceptable, car capable de s'insérer dans un réseau de représentations. Le signifiant rassemble ici et subsume à une identité linguistique qui, en revendiquant la monstruosité du personnage, l'insère dans un réseau de sens. La désignation « arraisonne », pour reprendre l'image de Derrida qui écrit « arraisonner, c'est demander les papiers d'identité, une origine et une destination, c'est prétendre reconnaître un nom propre, comment nommer sans arraisonner ?» En d'autres termes, c'est peut-être ce que Jean-Jacques Le Cercle appelle une interpellation assujettissante. Tout à la fois vectrice de subjectivité, elle ouvre la position du locuteur, et d'assujettissement, l'assignation à une place, le prix à payer pour la subjectivité. Ce harponnage, cette prétendue reconnaissance, permettent de s'aventurer sur le terrain familier, où l'avatar permet une assignation d'identité inscrite dans la logique de la présence. L'interpellation comme préséance, ici, de la voix sur le texte, celui de Mary Shelley, par exemple, contribue en fait à renforcer une lecture ontothéologique du personnage par les autres, alors même que tout dans le roman concourt à réfuter cette lecture. En ce sens, Ted concentre en lui le désir des autres de le voir comme l'incarnation d'explications possibles à son état, dans une version littérale et plutôt comique de la tension trace-présence pleine, telle que décrite par Derrida, que je cite, « la subordination de la trace à la présence pleine, résumée dans le logos, l'abaissement de l'écriture au-dessous d'une parole rêvant sa plénitude, tels sont les gestes requis par une ontothéologie déterminant le sens archéologique et eschatologique de l'être comme présence, comme parousie, comme vie sans différence, autre nom de la mort, historiale métonymie où le nom de Dieu tient la mort en respect. » L'attribution du nom participe ainsi à la détermination du sens. Ici, Frankenstein, ailleurs Diable ou Messie, ailleurs dans le roman, dans une figuration parodique de la parousie comme forme d'annihilation. En d'autres termes, étant subordonné à la présence spectrale du modèle qu'on lui impose, Ted est du même coup effacé dans la singularité de son expérience et de l'événement qui fait de lui un oxymore en différant l'accomplissement de sa mort. Ou pour le dire autrement, en repliant Ted dans un signifiant désarrimé de tout signifié initial, on le transforme en évidence, ce qui a pour effet d'évider tant le nom que celui du créateur imaginé par Mary Shelley, car cela implique cette reconnaissance du nom propre dont parle Derrida. Cette évidence, c'est ce que Jean-Jacques Le Cercle appelle force invisionnaire qui opère, dit-il, par sidération. Je cite Le Cercle, l'image s'impose au spectateur, elle lui impose l'histoire qu'elle raconte, le mythe qu'elle porte et transmet. C'est ainsi que fonctionne l'idéologie à l'évidence. Il se dégage de cette évidence un agone, une violence extrême qui insère le personnage dans une histoire qui n'est pas la sienne. La violence inhérente au roman ne tient donc pas tant à la rupture initiale, la tête décollée du tronc par l'accident, qu'aux tentatives de soudure, qu'il s'agisse du fil de pêche dont la fonction est détournée ou du raccord à une image véhiculée par une mémoire collective nourrie d'avatars plus que d'originaux. Cette violence fait retour sur le personnage de manière presque physique. The Frankenstein comment hit Ted like a brick. He realized he was in fact a monster, engendering fear in everyone who crossed his path. His daughter, the zealots, Dr. Lyons, the guards, everyone, except the man whom he was in the process of mating at chess. Plusieurs choses se dessinent ici. D'abord, au petit niveau de la deuxième phrase que je viens de dire ici, l'inversion se consolide. Si Ted est nommé Frankenstein, le savant qui expérimente sur le vivant ne l'est pas. The man whom he was in the process of mating at chess. Et alors que le docteur Frankenstein craint sa créature dans le roman de Mary Shelley, ce n'est pas le cas de Oswald Avery, dont la tâche consiste à cloner Jésus avec un succès tout relatif. Ensuite, l'attribution du nom Frankenstein joue pour Ted comme une révélation. He realized that he was in fact a monster, qui le rapproche du monstre initial. D'ailleurs, Ted n'est pas sans affinité avec le monstre du mythe original et le roman d'Everett se place de manière subreptice en miroir de celui de Shelley, faisant résonner les deux textes comme dans un jeu d'écho. Il porte les mêmes interrogations, mais comme dans un miroir déformant. Dans le conte de Shelley, lorsque Victor rencontre le monstre, ce dernier lui demande de l'écouter. Son observation des hommes qu'il a croisés sur son chemin lui a fait prendre conscience de sa condition d'être irrémédiablement autre, qui n'entre pas dans les cadres. « And what was I ?» s'écrit-il. Ça, c'est dans le roman de Mary Shelley. La scène semble se rejouer quasiment à l'identique dans American Desert, lorsque Ted est examiné par un médecin et demande « Then what am I ?» Anomalie, les deux personnages partagent les mêmes interrogations ontologiques, une forme d'indécision qui les définit en creux par la négative. Le monstre de Shelley se dessine dans ce qui le différencie des hommes. Je cite « My creation and creator, I was absolutely ignorant, but I knew that I possessed no money, no friends, no kind of property. I was besides endued with a figure hideously deformed and loathsome. I was not even of the same nature as man. Was I then a monster, a blot upon the earth, from which all men fled and whom all men disowned ?» Ce qui prédomine ici est l'absence, le vide sémiotique qui se traduit au mieux par une tache, a blot, c'est-à-dire par ce qui vient souiller un monde régulé par l'argent, le lien social, la propriété, mais aussi le jugement esthétique et moral, hideously deformed and loathsome. La tâche est également une figuration de l'informe, de ce qui introduit la menace d'une déstabilisation de l'ordre et de ce qui, inévitablement, attire le regard alors même qu'on voudrait l'ignorer. D'où la fuite, which all men fled, comme si cette tâche exerçait une sorte de force centrifuge, celle-là même qui provoque la peur dans l'entourage de Ted, dont la remarque apparaît presque comme un calque de celle du monstre, à la différence près qu'il substitue l'affirmation « He realized he was in fact a monster » à l'interrogation « Was I then a monster ?» Ted connaissait l'être, et la position d'un nom commun, « monster », sur sa condition, résulte d'une connaissance, de l'implicite contenu dans la référence au texte originel et d'une équivalence entre le nom et la monstruosité. Il reconnaît, dirait Derrida, le nom propre. Le fait que l'interpellation par Avery le frappe comme un coup de massue, « hit him like a brick », induit une forme de coïncidence entre un signifiant et un signifié qui implique cette reconnaissance, sorte de déjà-vu dont la lectrice fait l'expérience en identifiant les paroles de Ted à celles du monstre. Mais cette reconnaissance est biaisée. D'abord parce qu'elle ne fait que rejouer une partition dont elle est la copie. Une copie certes bizarrement originale, mais passée au tamis des codes discursifs ou de ce que Jean-Jacques Le Cercle appelle « ces coutures qui se laissent voir ». Une forme de jeu s'insinue alors au double sens de cette reconnaissance ludique du texte de Shelley et de ces écarts et interstices ou sutures visibles qui font trembloter le rapport à l'original. La reconnaissance ludique repose sur un intertexte, sur le texte tout texte se construit, multitude de discours et de voix, discours sans nom, sans auteur, mais qui n'en sont que plus publics d'être passés dans la langue sous forme de clichés, de métaphores mortes, d'expressions figées, d'allusions vagues. À l'incertitude du monstre qui tente de se définir a contrario, Ted sait. À la spéculation « was I then » se substitue la certitude « he was in fact » car il se reconnaît dans le cliché. Les écarts, eux, se manifestent de deux façons. D'abord par une dévolution inversée de la parole, Alors que les paroles du monstre sont rapportées en discours direct, celles de Ted sont au discours indirect. Mais là aussi, les textes se jouent des lecteurs. Illustration littérale peut-être du fait que Ted, comme le monstre de Shelley, sont pris dans un agencement collectif d'énonciation. Comme le dit Deleuze, l'agencement collectif d'énonciation n'a pas d'autres énoncés que ceux d'un discours toujours indirect. Le discours indirect est la présence d'un énoncé rapporté dans l'énoncé rapporteur, la présence du mot d'ordre dans le mot. C'est le langage tout entier qui est discours indirect. Loin que le discours indirect suppose un discours direct, c'est celui-ci qui s'extrait de celui-là. Dans la mesure où les opérations de signifiance et les procès de subjectivation dans un agencement se trouvent distribués, attribués, assignés. Le monstre est en fait sans voix propre, alors que Ted est doté d'une voix double. En effet, les paroles du monstre de Shelley sont rapportées par Victor, comme incrustées dans le récit du savant, et du coup passées au tamis de sa perception et de sa langue. Le « je », « je » est donc différé et la parole propre refusée au monstre. Il se mue en « he » lorsque Ted, lui, prend une parole qui n'est plus dévolue à un autre, plus dévolue à Victor, dont le récit lui-même est rapporté par Walton. Autre effet de différence, d'une bien illusoire origine. Il se mue en « Ted » lorsque Ted lui prend une parole, en « he », pardon, lorsque Ted lui prend une parole qui n'est plus dévolue à un autre, mais redoublé, diffracté par le fait que, je cite, « Ted chooses to relate his own story in third person ». Ensuite, parce que ce qui différencie les deux personnages est une tension entre vide et excès. C'est par élimination que le monstre de Shelley arrive à sa question existentielle, « And what was I ?» par le constat qu'il ne peut s'identifier à un modèle. Il n'est rien, ou il est un monstre, ce qui revient ici un peu au même dans la mesure où toute présence lui est refusée, parce qu'aucune catégorie ne lui correspond. À l'inverse, Ted souffre d'un trop-plein. J'ai un petit peu triché tout à l'heure en citant la question qu'il pose. « Then what am I ?» parce que je l'ai sorti de son contexte. Alors que la question du monstre est le fruit d'un déni de choix, celle de Ted résulte d'un surplus de possibilités incompatibles. Voilà le contexte. « It seems I'm dead », Ted said to his wife. « Obviously you're not, Mr. Street », Timmons said. « Then what am I ?» La question de Ted ne porte pas sur une quête ontologique, mais sur un état. Mort, pas mort, ni vivant, ni mort, mort et vivant. Aucun des deux états n'annulant l'autre. Ted restera en suspens dans un entre-deux tout au long du roman. Pour conclure rapidement, ce surplus de possibilités nous ramène à la question du nom. Comme le rappelle Jean-Jacques Le Cercle, le monstre n'ose même pas dire « qui étais-je donc ?» car le discours philosophique l'exclut. Il n'y peut figurer que comme objet d'expérience, une fiction. Le discours religieux, au contraire, lui renvoie une image de lui, mais une image indécise parce que dédoublée et qui ne lui assigne pas une place. Fin de citation. Deux choses m'intéressent particulièrement ici. Le monstre ne peut figurer que comme fiction. Il n'a pas finalement de place assignée. C'est peut-être là que l'ombre de Frankenstein se retourne comme un gant, si vous me pardonnez l'image, dans le roman d'Everett. Car Ted est avant tout un tissu de fiction et se retrouve par là avec une multitude de places assignées, mais flottantes et fluctuantes. Contrairement au monstre de Shelley, le nom ne lui fait pas défaut, et si la signifiance du monstre tient à son anonymat, la sursignifiance de Ted tient à la saturation de sens suggérée par la multiplication des désignations, souvent par le truchement d'un nom propre. Dans ce roman, le nom, quel qu'il soit, met en branle l'emballement interprétatif, créant un effet de contamination permanent, au point d'aboutir à un certain nombre de collisions préfigurées par la collision initiale entre la voiture de Ted et le camion UPS. Theodore Street, Mr. Street, Mr. Frankenstein. La conflagration de ces noms est en soi une forme de chimère, cadeau de Dieu ironique, Theodore, figure de l'Américain moyen, Mr. Street, annonce peut-être aussi de sa mort au coin d'une rue, avatar contemporain d'un mythe. Ted condense autant de possibilités, elles-mêmes décuplées par des collisions sonores plus ou moins subtiles, lorsque par exemple les membres d'une secte vouée à détruire le malin qu'ils croient enfin avoir capturé se mettent à annoncer « dead, 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 dead » dans une monotonie tautologique qui a pour visée d'anéantir symboliquement Ted, mais qui n'aboutit qu'à une bouillie verbale dans laquelle se dissout le sens. Si selon Derrida, le nom résonne, il aurait plutôt tendance ici à désarimer, préférant les effets d'anamorphose, l'évanescence d'images qui se dissolvent, à peine le nom propre les a-t-elle esquissées. L'ombre qui plane est alors comme la survivance d'une image sur la rétine, image linguistique, image visuelle, image textuelle, recyclée et parodiée peut-être, mais surtout libre de droit.